L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
On en parlait en tout début d'émission à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations portées en Mayenne par le collectif Unissons nos différences. Nous vous proposons de découvrir chaque jour une association qui fait partie de ce collectif, ses combats, quelles sont ses missions. Pour cette première interview, place à l'association Les Deux Rives, qui gère plusieurs structures de logements accompagnés, qui soutient les personnes pour sortir de la précarité. Quels publics sont concernés? Réponse avec le directeur de l'association Les Deux Rives, Jean-François Rossignol.
Ce sont toutes les personnes qui se trouvent sur une situation de précarité au moment de leur vie. J'utilise le mot « en situation » parce que la précarité, c'est pas quelque chose de figé, on l'espère, c'est quelque chose sur un temps donné, défini. Et notre objectif, c'est apporter par l'hébergement ou le logement un accompagnement éducatif et social pour que les personnes puissent retrouver une autonomie à travers le logement. Ça, c'est la partie plutôt hébergement-logement, donc ça dans différents dispositifs. Alors, ça peut être du CHRS, de la maison relais, de la résidence sociale, ou pour les plus jeunes de 18 à 25 ans, un dispositif qui s'appelle HAIJ, ou pour les situations de personnes en sortant d'incarcération. Voilà, il y a plein de toutes des situations qui fait par lesquelles on peut se retrouver en situation difficile en tout cas.
Si on peut peut-être détailler du coup pour mieux comprendre, donc ce que vous appelez le CHRS ou la maison relais, ça va être par exemple pour quel type de public?
C'est vraiment la situation au CHRS, c'est pour les personnes qui sont vraiment le plus en difficulté, je dirais. Souvent, c'est une situation après un passage à la rue, ou une situation vraiment plus d'hébergement, où les personnes se retrouvent avec une situation administrative, pas tout à fait aboutie, le RSA n'est pas arrivé, la CAF n'est pas faite, où il n'y a plus du tout logement. Donc là, c'est des personnes qui peuvent rentrer au CHRS. Quand on parle de CHRS, c'est un accompagnement éducatif et social, où à la fois on apporte aussi un hébergement avec un hébergement où c'est un petit studio qui est aménagé, après à charge qu'il puisse faire son alimentation, et il y a tout des rendez-vous assez très réguliers pour que la personne puisse retrouver le chemin de l'autonomie avec un temps de entre 6 mois et 1 an. On a le même dispositif, on n'appelle pas ça un CHRS, mais c'est un hébergement d'accompagnement par l'insertion pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors, c'est pas dans un foyer, c'est dans le DIFU. Donc là, c'est pour vraiment particulier pour les jeunes, avec deux critères, pas de logement et pas de revenu, qui permet en tout cas aux jeunes de retrouver une situation stable à travers le logement, et toujours, dans le cadre du logement, un accompagnement éducatif et social qui permet de retrouver une situation plus stable.
Donc ça veut dire que concrètement, au quotidien, dans la semaine, il y a des rendez-vous qui sont prévus. Comment ça fonctionne?
Alors, pour les jeunes, c'est souvent des rendez-vous qui sont plutôt en lien dans l'appartement, parce qu'on travaille sur deux notions. La notion de vivre dans un logement seul en autonomie, qui n'est pas évident, surtout une situation pour les personnes qui sont relativement comme 18 ans. Donc c'est un accompagnement très pragmatique, hein, c'est savoir vivre dans un collectif, respecter des règles, savoir faire le ménage, savoir s'alimenter. Et puis, de l'autre côté, tout un penchant plutôt éducatif et social vers l'insertion, retrouver soit une formation, soit une base d'emploi, les liens aussi familiaux. Voilà, ça c'est toute la partie sphère éducation et sociale. Donc c'est des rendez-vous très réguliers, hein, soit dans le logement, soit dans des bureaux, un accompagnement très serré, des coups de téléphone, des passages, voilà. C'est vraiment garantir en tout cas un accompagnement assez présent. L'idée c'est que retrouver de la confiance en soi, quoi. Je crois que les personnes qui sont dans une situation comme ça, elles sont très très démunies, peu de confiance en soi. Donc c'est retrouver à travers cet accompagnement du désir, de l'autonomie pour qu'ils puissent se débrouiller seuls un peu plus tard. Et souvent accompagner aussi avec du soin parce que des fois il y a une situation de problème addictif ou psychologique ou psychiatrique, donc c'est les accompagner aussi dans le soin.
Donc là on est vraiment sur un accompagnement, vous le disiez, très présent, et il y a aussi d'autres logements que vous proposez où cet accompagnement il est un peu moins régulier.
Peu moins présent. Tout à fait. Alors, il y a encore toujours dans un système, c'est la maison, on appelle ça la maison relais, c'est un accompagnement pour des personnes qui sont en situation, évidemment, de précarité et puis aussi d'isolement. La grande différence, il y a une stabilité plutôt administrative qui est faite pour les personnes bénéficiaires de maisons en relais, c'est-à-dire qui sont peut-être souvent sous tutelle ou accompagnées déjà, ou qui ont eu un passage au CHRS. Donc sur le plan administratif, les choses sont réglées, mais qui ont toujours besoin d'un accompagnement plutôt à vie, dans le logement toujours. Toujours l'accompagnement se fait dans le logement. Je vis dans mon logement et comment à partir de mon logement je peux m'insérer, retrouver du lien social et puis retrouver une sécurité qu'on fait. Donc là c'est un accompagnement plutôt de présence, d'animation, d'accompagnement en fait.
Quand vous dites d'animation, ça veut dire que ça regroupe aussi plusieurs locataires ou?
Oui, ça peut regrouper plusieurs bénéficiaires qui vont faire des activités ensemble à un moment donné parce que c'est des personnes qui sont souvent très isolées, donc on retrouve du lien social. Et à travers le lien social, on retrouve aussi de l'autonomie et de la confiance en soi. La maison relais, c'est un bail comme vous et moi qu'on peut signer. C'est vraiment, ils sont chez eux, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Là, avant c'était de l'hébergement, c'est pour ça qu'on différenciait les choses. Quand on parle d'hébergement, il y a une durée, il y a un contrat de séjour, un contrat éducatif. Là, dans la maison relais, c'est vraiment leur maison. C'est un appartement. Ils sont chez eux. Ils signent un bail avec un accompagnement. Donc, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Et puis, toujours on parle du logement. Donc, je vais au fur et à mesure dans l'autonomie. On a la résidence sociale qui est là. C'est un accompagnement qui est beaucoup plus léger. Donc, pour dire que, on a un temps éducatif pour 92 personnes. Donc, on est plus, dans une partie d'autonomie, donc c'est des personnes qui sont relativement autonomes, qui ont souvent soit du RS, enfin souvent un RSA ou souvent des personnes qui travaillent. L'avantage de la résidence sociale, c'est qu'on n'a qu'une seule redevance pour l'ensemble du loyer. C'est-à-dire que la redevance comprend à la fois tous les fluides, l'électricité, le chauffage, la taxe d'habitation et comprend aussi le loyer. Et l'avantage aussi, c'est que la CAF, on appelle ça une CAF foyer, qui est beaucoup plus importante et qui permet d'un reste à charge pour la personne qui soit relativement bas avec qu'une seule facture. Donc c'est en termes de budget, c'est beaucoup plus simple en fait pour les personnes. C'est des logements aussi qui sont logés, il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut au bureau. Et l'avantage de ça, c'est qu'on facilite le départ vers un bailleur social parce que la durée de préavis est raccourcie maximum pour que ce soit très simple dans le départ. Et pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, voilà, pour qu'ils soient raison, ça peut être de l'ordre de la santé, du social ou autre chose, ou accompagné vers et dans le logement, il y a un travers social qui est là pour les aider. Mais de façon beaucoup plus légère.
Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de pallier aux difficultés économiques et éventuelles, s'il y a d'autres difficultés à côté, mais surtout vraiment au niveau du budget, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent ici, c'est souvent en lien toujours des situations un peu qui peut emmener de la précarité, des séparations, une perte d'emploi, arriver sur le département et puis pas avoir de connaissances, voilà. Et l'avantage de la résidence sociale, c'est qu'on peut arriver, il y a une place, sur un peu de liste d'attente, il y a tous les meubles qui sont fournis, il n'y a qu'une seule redevance, voilà. Les choses sont facilitées énormément pour trouver surtout un logement, en fait. Mais il faut une relative autonomie pour accéder à cette résidence sociale.
Et est-ce qu'il y a des liens, justement, entre ces différentes structures?
Alors, il y a du lien, mais chaque dispositif a bien sa commission d'admission. Il n'y a pas de passe-droit spécifique d'un chemin à un chemin. On parle de parcours résidentiel au maximum, c'est-à-dire qu'on va faciliter le parcours pour que la personne devienne de plus en plus autonome, mais chacun dans ses règles d'admission.
Puisque l'objectif, donc vous l'avez dit, c'est vraiment que les personnes soient plus autonomes et en tout cas résolvent petit à petit leurs difficultés.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation de précarité à une situation normale, comme vous et moi. Donc c'est un passage, pour moi c'est un passage, et à travers ce passage, quel que soit le lieu ou quel que soit le dispositif d'accompagnement qui sont là, c'est essayer de tendre vers le haut, quoi, en fait. Et pour ça, c'est d'essayer d'enlever tous les éléments qui engendrent la précarité. Donc c'est à la fois le logement, le soin, le social, l'insertion professionnelle, l'isolement social.
Donc oui, il y a le logement, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
Voilà, on part du principe que sans logement, on ne peut pas travailler le reste. Sans toit, on ne peut pas faire le reste. Pour travailler la confiance en soi, l'insertion sociale, l'autonomie, le professionnel, il faut un toit.
Et donc là, pour l'instant, tous ces dispositifs, ils sont à Laval ou vous intervenez aussi sur d'autres villes en Mayenne ?
Alors, ils sont centralisés sur Laval, mais on a des actions qui sont départementales. Hein. Par exemple, on a des appartements de coordination thérapeutique, on travaille en lien avec le GEST. Là, c'est des actions qui sont départementales, c'est-à-dire que les demandes peuvent venir de l'ensemble du département. On a beaucoup comme ça de dispositifs qui ont une envergure départementale où les logements sont situés à Laval. Mais même si les logements ou les foyers sont situés sur Laval, ça ne veut pas dire qu'on ne fonctionne que sur Laval. C'est bien souvent des actions qui sont départementales.
Et l'association, j'ai vu qu'elle avait été créée il y a quand même un certain temps. Justement, j'imagine qu'au départ, c'était pas, il n'y avait pas autant de structures et peut-être que l'accompagnement était un peu différent.
Elle avait plus de 50 ans, l'association. Et avant, c'était un foyer migrant, on appelle ça. Et c'était surtout accueillir la population migrante pour qui venait travailler sur Laval. Il fallait trouver des logements dans ce cadre-là. Donc c'était une association qui était très en lien avec la mairie de Laval, qui était très lavalloise, en fait. Et puis au fil du temps, les choses ont changé, les populations sont devenues différentes, vous savez. Et puis les besoins ont augmenté ou ont été différents, en tout cas, où les accompagnements ont été beaucoup plus présents avec la création de nouveaux dispositifs. Et puis l'association... comme au fil du temps, elle a aussi évolué au fur et à mesure des besoins et elle s'est recentrée bien sur ses missions qui étaient bien quand même le logement, quoi, le logement accompagné. Alors, à travers ce logement accompagné, elle a évolué aussi dans ses prises en charge. On fait plein d'autres choses aussi à travers le soin, à travers la sortie de la prostitution, à travers la sortie d'incarcération. Enfin, vous voyez bien, on essaye de voir toutes les difficultés que peut engendrer la vie, en tout cas, et puis essayer de dépasser les moments de précarité.
Et est-ce que là, depuis un an, avec la crise sanitaire, vous avez vu des besoins plus importants ?
Je pense qu'il y a des besoins qui sont remontés, mais je pense qu'on n'est qu'au début des difficultés, en fait.
Puisque cette interview, elle intervient donc dans la présentation plus globale des associations du collectif Unissons nos différences. Et je voulais savoir, du coup, comment est-ce que vous voyez le fait, donc, l'action de votre association donc, dans la lutte contre les discriminations ?
C'est partout, mais voilà, au moins sur les foyers, sur les résidences sociales, c'est l'accueil sans discrimination, évidemment, quel que soit le type de discrimination, il n'y a aucune discrimination, et c'est de vivre ensemble. Qu'on soit afghan, qu'on soit guinéen, qu'on soit français, qu'on travaille, qu'on travaille pas, qu'on soit malade, qu'on soit pas malade. Comment, au sein d'un foyer, ce qui est pas toujours simple, hein, un foyer de 80 personnes, souvent des hommes, et bien comment chacun peut vivre ensemble et se respecter les uns les autres. Je crois que c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Donc c'est comme ça qu'on y participe, me semble-t-il.
Et demain, zoom sur l'association ATD Quart Monde pour consulter le programme des animations de ces semaines d'éducation contre la discrimination. Rendez-vous sur le site collectif-und.fr.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.